En fait, c'est pas si facile que ça de raconter des histoires à la radio.
Non.
Alors, je vais vous raconter une histoire passionnante.
Excuse ma belle, l'histoire m'appelle.
Eh bien, cette histoire est fausse.
Puis le passé, c'est le passé, je ne veux pas reparler.
Tu parles d'une connerie.
Vous savez, l'histoire, elle va changer.
Tu parles d'une histoire.
Bonjour à tous et bisous sur vos crânes. Accrochez vos ceintures, le temps de faire péter la barrière des 88 miles à la DeLorean. Et nous voilà en 395 après Jésus-Christ, du côté des plaines du Danube, à deux pas d'un berceau où vagit le dernier-né d'une famille de Huns. Sauf que du coup, ils sont plusieurs, Attila. Alors, qui sont les Huns ? Des cavaliers nomades venus d'Asie centrale et surtout un peuple de conquérants déjà bien installé des Carpates à l'Oural. Ce qui fait tout de même une petite trotte, un vrai petit empire, mais pas un empire organisé, centralisé, bureaucratique, comme l'Empire romain. Faut plutôt voir ça comme une zone d'influence, mouvante, en constante évolution. En 395, la réputation d'invincibilité des Huns n'est plus à faire. Leur cavalerie est rapide, leurs archers sont doués, et ils ont déjà fessé un paquet de tribus germaines plutôt réputées pourtant dès qu'il s'agit de s'avoiner. Attila, lui, ne se retrouve roi des Huns qu'en 434 et encore en compagnie de son frère Bléda. Il a déjà la cinquantaine quand il règle les derniers détails de la succession en trucidant son frangin en 444. Grâce à Priscus, un diplomate romain qu'il a rencontré, on a une petite idée de l'allure d'Attila. C'est un homme de petite taille, du genre Rabelais. Il a la peau mate, un nez aplati, des pommettes hautes, une barbe rare et clairsemée. Mais au-delà de son physique, Attila est surtout un chef d'État dont le pouvoir repose sur la loyauté des familles de la noblesse d'une part, sur les tribus que lui versent les peuples soumis d'autre part. En 447, un tremblement de terre fout une bonne partie des murailles de Constantinople par terre. Un qui flaire le bon coup, c'est Attila, qui jette ses troupes en Macédoine, en Thrace et tout le long du Danube. L'empereur d'Orient, Théodose, concentre toute sa défense sur Constantinople, qu'Attila se garde bien d'attaquer. En revanche, ses troupes pillent, tuent et violent joyeusement dans toute la région. Bref, ça fait 1 à 0, et tout le monde voit déjà bien qui c'est Raoul quand Attila se tourne vers l'Occident, à l'occasion d'une histoire à peine croyable. Valentinien, l'empereur d'Occident, vient de demander à sa sœur, Honoria, de vivre chastement, pour ne pas foutre la merde dans une ligne de succession déjà compliquée, en rajoutant des gosses sur la ligne de départ. Sauf que Honoria estime qu'elle fait bien ce qu'elle veut avec ses miches. Ça se termine par un scandale d'anthologie et par une grosse colère de Valentinien. Une si grosse colère qu'Honoria a la brillante idée d'appeler au secours Attila, à qui elle envoie même une de ses bagues et mieux qu'une bague, son sceau personnel. Attila, qui a bien dû rigoler sur ce coup-là, fait mine de croire à une demande en mariage et réclame séance tenante à Valentinien. La main de sa sœur, le reste de ses bijoux, une licorne, un Mars et tant qu'on y est, l'ensemble des provinces de Gaule. Alors vous me direz qu'avoir la Gaule pour son mariage, c'est légitime, mais ça fait moyennement marrer l'empereur qui refuse tout net. C'est exactement le prétexte dont Attila avait besoin pour se jeter sur la Gaule. Et pour ça, il y a les Huns, mais il y a aussi les autres, puisqu'Attila fédère une tripotée de tribus germaines, des Goths, des Alains, des Vandales, des Alamans, des Sarmates. En avril 451, Attila ravage toute la région rhénane, l'Alsace, la Lorraine et les Flandres actuelles, brûle Metz avant d'échouer devant Paris. Il se prend ensuite une tatouille face à Aïssus, un général romain, qu'il défonce au cours de la bataille des Champs Cataloniques près de Troyes. On pourrait croire que ça l'a calmé, mais pas du tout. Pour retrouver son prestige après une campagne plutôt loupée, Attila attaque l'Italie l'année suivante. Et ça rentre comme dans du beurre jusqu'à ce que Aïssus se pointe encore lui, pour réussir à le bloquer in extremis dans la plaine du Pô. Mais cette fois, Valentinien est militairement à genoux et doit négocier. Attila repart avec un beau paquet de pognon. Pour fêter ça, il décide de se marier avec une jeune germaine, Ildiko, qui a bien 30 ans de moins que lui. Mais ses excès le rattrapent, sa trajectoire se finit en queue de poisson. Après avoir passé la soirée à sarsouiller, l'heureux époux meurt brutalement la nuit de ses noces, a priori d'une attaque massive. On le retrouve au matin, les narines en sang, au pied de son épouse prostrée. Ces hommes commencent par l'essentiel, c'est-à-dire par buter la jeune fille, avant d'organiser des funérailles à la hauteur du personnage. En croire la légende, on détourne une rivière pour y creuser une tombe, avant d'y déposer l'épée et le corps d'Attila, protégé par un triple cercueil d'or, d'argent et de fer, puis de laisser la rivière reprendre son cours. Perdu dans des querelles de succession, l'empire éphémère d'Attila ne lui survit pas 2 ans, et pourtant, il a marqué la mémoire collective, portée par une tradition chrétienne qui en fait le fléau de Dieu, l'exemple même de la punition envoyée par le Créateur. La réalité, comme d'habitude, n'a rien plus nuancé. Attila, comme d'autres dirigeants dits barbares, a surtout mis en évidence les faiblesses d'un empire romain qui était déjà bien, bien malade au 5e siècle. Comme disait Terry Pratchett, l'histoire a toujours quelques tours dans son sac. Après tout, elle est là depuis longtemps. Nova.